Music.
14h-15h. Le grand journal. Steve Nadjar.
Bonjour à tous, Chodesh Tov et Hanouka Sameach. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal. On est ensemble pendant une heure, mardi 31 décembre, Radio J, il est 14h. Au sommaire, l'édito politique d'Alexis Lacroix sur les vœux d'Emmanuel Macron, le zoom sur l'actualité israélienne, mon invité, le géopolitologue Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis pour un bilan et perspective géopolitique pour les mois à venir. Nous sommes le mardi 31 décembre, 30 qui se lèvent, 5785 et 100 personnes sont toujours retenues en otage dans la bande de Gaza. Ne les oublions pas. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr, nous suivre en vidéo sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Tout de suite les infos avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous.
Au 452e jour de guerre en Israël, Tsahal annonce le départ de la brigade Nahal de Rafah.
Déployée fin mai dans la localité du sud de la bande de Gaza, la brigade a pu localiser et détruire de nombreuses infrastructures utilisées par le Hamas à des fins terroristes, notamment des tunnels, selon un bilan des 7 mois d'opérations sur place dressé par l'armée israélienne. Par ailleurs, Tsahal a annoncé avoir éliminé dans le nord du territoire un commandant du djihad islamique en charge de tirs de roquettes contre Israël, Mohammad Saadi Masri, qui avait notamment ordonné de faire pleuvoir des roquettes sur les localités israéliennes frontalières le 7 octobre 2023.
Au lendemain d'une attaque houthie contre Israël, de nouveaux débris du missile utilisé hier par les rebelles yéménites ont été retrouvés à Beth Shemesh, dans le district de Jérusalem.
Des débris retrouvés sur le balcon d'une maison, des morceaux du missile ont atterri à au moins 3 endroits dans cette ville. Le projectile a été intercepté dans la soirée avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien. À Harish, plusieurs véhicules ont été endommagés par des fragments. Et puis, à Yavne, une jeune femme de 18 ans a été légèrement blessée après avoir été heurtée par un véhicule alors qu'elle cherchait à rejoindre un abri. C'est dans ce contexte de recrudescence des attaques houthies que les rebelles soutenus par l'Iran ont promis des surprises à Israël. Mais pour Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency, il n'y a pas de crainte à avoir.
On a le Hetz, la flèche, le seul missile anti-missile balistique qui existe, et il fait bien son travail. On a loupé une fois la cible, ça fait des dégâts sur une école, mais globalement, on arrête, il faut le dire aussi, tous ces missiles balistiques, et en dehors de l'espace aérien israélien, comme on l'a fait cette nuit. Le problème, c'est le nucléaire iranien. On sait gérer la menace houthie. Les houthis, c'est pas l'armée russe ni l'armée chinoise. C'est des désagréments, mais on sait les gérer.
Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency, ce matin au micro d'Ilana Ferradion.
Dans le reste de l'actualité israélienne, le Shin Bet a déjoué plus de 1000 attaques terroristes en Judée-Samarie et à Jérusalem cette année.
650 suspects ont également été arrêtés dans la bande de Gaza et 20 cellules terroristes démantelées au sein des communautés arabes israéliennes. 13 missions d'espionnage pour le compte de l'Iran ont par ailleurs été découvertes selon le service de renseignement israélien.
Politique, le ministre des Finances israélien appelle le chef du gouvernement à assurer l'adoption du projet de loi sur la taxation des bénéfices non distribués.
S'exprimant lors d'un toast à l'occasion de Hanouka depuis les bureaux du Mavdal, le parti du sionisme religieux, Bezalel Smotrich a rappelé que le budget appartenait à l'État d'Israël. Le Premier ministre doit prendre ses responsabilités et la coalition doit se montrer à la hauteur de la situation. Appel lancé par le ministre des Finances alors que Benjamin Netanyahou est actuellement hospitalisé après une opération de la prostate. Les partis d'extrême droite Otzma Yehudit et ultra-orthodoxe Agudat Israël ont menacé hier de s'opposer à la loi sur les bénéfices non distribués réinvestis dans les entreprises. Jusqu'ici exonérés d'impôts, le ministère souhaite désormais taxer ses profits, Daniel Haïk.
Les partis ultra-orthodoxes exercent une pression sur le gouvernement israélien pour qu'il présente immédiatement un texte de la loi sur la conscription des étudiants en yeshiva avant l'approbation du budget. Ils menacent de ne pas soutenir le budget si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et puis le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, cherche lui à régler un autre conflit, celui avec Itamar Ben-Gvir, pour éviter de devoir accorder des fonds supplémentaires au ministre de la Sécurité nationale. Une situation donc très complexe qui met la stabilité du gouvernement en danger.
Et non, ce n'était pas Daniel Haïk, c'était donc notre correspondant en Israël, Olivier Granilic.
Et on les salue néanmoins tous les deux. L'armée française a frappé des positions de Daesh en Syrie, annonce de Sébastien Lecornu, le ministre français des armées.
Ces frappes opérées avant-hier s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de la France dans la lutte contre le terrorisme au Levant, a assuré Sébastien Lecornu sur le réseau social X. Au total, 7 bombes ont été larguées contre 2 cibles distinctes. Les ministres des armées et des affaires étrangères, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, sont actuellement en déplacement au Liban, afin notamment de fêter le réveillon du Nouvel An avec les militaires français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, dans le camp de Der Kifa.
Autre guerre celle entre l'Ukraine et la Russie qui se poursuit, le président américain offre 6 milliards d'aides militaires et économiques à Kiev.
Quelques jours avant de céder le pouvoir à Donald Trump, Joe Biden a en effet présenté hier soir ce dernier volet massif d'aide à l'Ukraine. Cette assistance est constituée de près de 2,5 milliards de dollars d'équipement militaire et de 3,4 milliards de dollars de soutien budgétaire direct à Kiev. Une annonce faite alors que le retour des Républicains à la Maison-Blanche fait craindre une diminution du soutien américain à l'Ukraine. L'Ukraine qui perd du terrain face aux troupes russes.
Après une journée passée à Mayotte, le Premier ministre français est en déplacement à La Réunion.
François Bayrou achève aujourd'hui sur l'île de l'océan Indien son déplacement consacré au cyclone Chido qui a frappé Mayotte il y a un peu plus de 2 semaines. Hier, il a annoncé une batterie de mesures destinées au redressement de l'archipel. Le chef de l'exécutif souhaite la réconciliation pour l'année à venir. Écoutez.
On a traversé des périodes dans lesquelles il y a des fractures et des affrontements et des mots qui pour moi sont pas acceptables. Ces affrontements-là, ils doivent céder la place à la réconciliation. Deuxièmement, je souhaite l'action et je souhaite la stabilité. Je pense que c'est un pays qui a besoin qu'on calme ces ruptures successives qui donnent à chaque famille des Français le sentiment qu'il n'y a rien sur quoi on puisse construire puisque tout est renversé à chaque minute.
François Bayrou, le Premier ministre en déplacement à La Réunion.
Le budget de l'État a été reconduit à l'identique pour 2025.
En attendant l'adoption d'un budget pour l'année à venir, le gouvernement a reconduit au 1er janvier par décret publié au journal officiel les autorisations d'engagement ouvertes par la loi de finances initiale de 2024. Par ailleurs, les Français ne paieront pour le moment pas plus d'impôts sur le revenu.
Emmanuel Macron va présenter à 20h ses vœux aux Français dans la traditionnelle allocution télévisée de la Saint-Sylvestre.
Objectif pour lui, tourner la page d'une année marquée par une dissolution tourmentée de l'Assemblée nationale en juin. Dans le même temps, plus d'un million de personnes sont attendues dès 19h sur les Champs-Élysées pour les festivités de fin d'année. Au programme feux d'artifice, concerts ou encore spectacles de cirque annonce la mairie de Paris. Les chanteurs Eddy Depreto, Lio Franglish ou encore Jean-Louis Aubert se produiront gratuitement sur scène. Un moment d'attention soutenu pour le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
C'est pas forcément l'événement, le moment le plus stressant de l'année. On sort des Jeux Olympiques, de l'inauguration de Notre-Dame, mais c'est un moment d'attention très soutenu pour les forces de l'ordre, parce que traditionnellement, donc dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, on peut avoir des violences urbaines, on a un gros dispositif de sécurisation à remonter. On a 10 000 membres des forces de sécurité qui seront mobilisés entre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les militaires du dispositif Sentinelle et puis aussi les policiers municipaux, notamment à Paris, qui seront engagés sur la sécurisation du dispositif des festivités de ce soir.
Laurent Nunez ce matin au micro de nos confrères de RTL. La soirée qui sera diffusée en direct sur France 2 se clôturera par le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An à minuit.
Merci beaucoup Etanit. À tout à l'heure d'ici une vingtaine de minutes pour le rappel des titres, mais tout de suite la politique.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
En raison de l'adoption de la motion de censure, le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement.
Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté.
Je ne dirais pas qu'on va censurer a priori, mais je commence à avoir des a priori de censure.
Il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème. C'est une nouvelle élection présidentielle.
La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour cher Alexis.
Bonjour cher Steve.
Ravi de vous retrouver également. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, en cette dernière journée de l'année civile 2024, les responsables politiques dressent souvent un bilan et tracent des perspectives pour l'avenir. C'est ce que fera ce soir évidemment Emmanuel Macron dans ses vœux. On y reviendra. Mais je voudrais qu'on démarre avec François Bayrou, Alexis, qui se trouve aujourd'hui à La Réunion après son déplacement à Mayotte, où il a décliné des mesures d'urgence pour l'archipel dévasté. Est-ce que son plan Mayotte debout peut fonctionner selon vous?
Alors vous pouvez associer d'ailleurs le numéro 3 du gouvernement à ce plan, c'est Manuel Valls, hein, qui est sur place, qui prolonge...
Ministre des Outre-mer.
Voilà, qui l'accompagnait, qui prolonge son séjour. Je crois qu'il est d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, il a regagné, après avoir visité des communautés du nord dévastées par le cyclone, il a regagné le sud, notamment la commune de Bandrélé, qui est proche de Mamoudzou, le chef-lieu de ce département ultramarin. Et vous avez raison, leur présence... Aujourd'hui, François Bayrou à La Réunion, aujourd'hui Manuel Valls sur l'ensemble du territoire de Mayotte, Mahorais, correspond en réalité, au-delà du plan lui-même, des annonces, de la reconstruction, si possible en dur, hein, d'un certain nombre de bâtiments qui, s'il y avait une catastrophe naturelle analogue, ne s'effondrerait plus, hein, ça serait la conséquence. Au-delà de ça, vous avez raison, ce gouvernement qui s'installe fait de Mayotte et de sa reconstruction et plus largement du sort des Outre-mer une sorte de test de vérité, on pourrait dire de crash test d'une politique de renoncement au renoncement. Je m'explique, il y a le sentiment qui a été résumé d'ailleurs au moment de son installation par François Bayrou et plus récemment dans les colonnes du Point par Manuel Valls, qu'au fond, on a renoncé ces dernières années trop souvent au volontarisme politique.
Et donc, et c'est le retour de la puissance publique à ce niveau-là, en tout cas à Mayotte.
À l'évidence. Et d'ailleurs, ça correspond aussi à une attente des Français. Mais c'est marrant que le Girondin François Bayrou et celui qu'on qualifie souvent de Jacobin Manuel Valls s'associent avec d'autres ministres, avec Bruno Retailleau, mais aussi avec Gérald Darmanin, dans une volonté, effectivement, de renoncer au renoncement au politique. Autrement dit, de réinvestir le politique, le volontarisme politique, comme, j'allais dire, un message d'espérance pour les Français. Donc, vous voyez, on peut penser que dans les mois qui viennent, il y aura une reconquête républicaine progressive de tous les territoires perdus et abandonnés de la République. J'y inclus naturellement aussi, on va en dire un mot dans un instant, les banlieues. Mais si on reste sur l'outre-mer, c'est très net qu'il y a un changement de perspective. Et d'ailleurs, on peut reprocher beaucoup de choses à François Bayrou, mais je crois qu'il a entendu la colère des habitants au moment où le cyclone a dévasté l'île et il ne pouvait pas s'y rendre pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Je crois qu'il l'a entendu. Et je crois qu'il a entendu aussi le fait qu'il y a une demande d'égalité républicaine qui ne peut passer, puisque c'est le sujet que nous abordons, que par un réinvestissement de la puissance publique. Donc nous verrons ce qui est fait, mais ce qui est sûr, c'est que si on lit attentivement ce que dit le toujours précis Manuel Valls, il y a la volonté sur les Outre-mer d'une présence accrue de l'État, au travers des préfets, mais aussi au travers de ce ministre, hein, qui est le numéro 3 du gouvernement, qui promet des séjours plus longs, notamment en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de février, et un retour après avoir séjourné à Mayotte, là où nous parlons, il est à Bandrélé, au sud-est de l'île, mais je crois qu'il reviendra dans 4 semaines à Mayotte pour voir comment le plan Mayotte debout se met en place.
Alexis, le Premier ministre François Bayrou a dit souhaiter tout à l'heure pour les Français une année de réconciliation après les fractures et les affrontements, une année également d'action et de stabilité après les tumultes des derniers mois, notamment après la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est une mission presque impossible pour lui ?
Non, je ne crois pas. Je crois que nous sommes actuellement dans un moment du macronisme où on rompt avec...
On est encore dans le macronisme avec François Bayrou ?
Alors, on peut dire qu'on est dans une forme de post-macronisme, mais c'est quand même Macron, hein, il va parler ce soir, c'est quand même lui, vous voyez. On est dans un macronisme de correction de trajectoire. On a pu avoir le sentiment que la Startup Nation, c'est-à-dire le macronisme première manière, était un renoncement aux politiques, c'est-à-dire sous l'influence des révolutions technologiques, de la fascination pour un certain économisme. On se disait, bon, la puissance publique c'est important, mais c'est d'une certaine manière secondaire. Je crois qu'on revient...
Il y a un intérêt limité par ailleurs pour les corps intermédiaires.
Voilà, on est absolument d'accord. Je crois qu'on revient aux fondamentaux. Alors ça ne veut pas dire que le gouvernement Bayrou va réussir sur toute la ligne, mais je crois qu'on a été un peu sévère au moment de sa nomination. Je me souviens de commentaires qui étaient d'une ultra-sévérité à l'endroit de François Bayrou.
Mais quels sont ses atouts, Alexis, comparativement à Michel Barnier ?
Alors, vis-à-vis de l'Assemblée, là, ne m'engagez pas sur ce terrain, restons sur l'angle de notre chronique d'aujourd'hui, qui est le réinvestissement de la volonté générale, du volontarisme politique.
Mais pour ça, il faut des moyens, Alexis, alors, et la France en manque.
Vous avez absolument raison.
De la dette.
Mais je crois que le diagnostic a été fait par François Bayrou. Ça, c'est absolument incontestable. Probablement, d'ailleurs, de concert avec ceux qu'il a choisis comme ministre d'État. Hein, c'est-à-dire le quatuor de tête. Vous voyez, Elisabeth Borne, évidemment.
C'est un Premier ministre.
Voilà, il partage, c'est évident, une conception commune de l'action publique. C'est-à-dire à la fois volontariste sur le plan, j'allais dire, de l'action publique émanant de Paris, mais aussi avec la décentralisation, la dimension plus girondine. Il partage un constat, c'est absolument évident, avec Manuel Valls, mais aussi avec les deux ministres qui sont calés plus à droite, si vous voulez, qui sont Gérald Darmanin à l'intérieur, à la justice, et Bruno Retailleau à l'intérieur, qui forment en fait, là, pour le coup, un duo assez fonctionnel, avec le désir de réduire, notamment, le niveau d'insécurité sur l'ensemble du territoire, rappelant que la sûreté est le premier droit.
Mais si on... Et là, on est en pleine convergence, d'ailleurs, sur ce point, synthétise Alexis, entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice.
Alors, sur ce plan-là, effectivement, si on fait une synthèse un peu, si vous voulez, de ce qu'ils sont en train de mettre en place, nous avons longtemps eu une sorte de diarchie qui parfois a été dysfonctionnelle. Nous revenons à une situation qui évoque la cohabitation de 86, où Jacques Chirac, qui était le premier ministre d'alors, de François Mitterrand, avait nommé à la justice Albin Chalandon et son ami Charles Pasqua à l'intérieur, qui avait une vraie convergence de vues sur les sujets régaliens. Donc là, nous avons une configuration relativement analogue. Et on y ajoute une dimension plus décentralisatrice avec la personnalité de François Bayrou. Vous savez, c'est un fils de paysan, il est quand même très enraciné dans ses Pyrénées-Atlantiques, il parle le Béarnais, et la mission qui est confiée à celui qui est habituellement qualifié de jacobin, de clémenciste, Manuel Valls, mais qui consiste aussi effectivement à réaffirmer l'autorité de l'État, mais aussi la fierté française au travers de nos départements et collectivités d'outre-mer.
Alexis, Emmanuel Macron présentera donc ses vœux ce soir à 20h aux Français, le président de la République qui promet, je cite en tout cas ce que nous dit l'Élysée, une hauteur et un ton différent dans son intervention, lucide sur les bons et les grands moments, mais aussi sur les difficultés, c'est ce que fait savoir l'entourage du chef de l'État, exercice là aussi difficile après une année particulièrement délicate pour le président de la République.
Alors là, il se remet en position mitterrandienne, typiquement 85-86, je suis en position mitterrandienne. Il n'est pas contre son Premier ministre, il ne faut pas caricaturer, mais il n'est pas forcément solidaire de tout ce qui va être fait. Alors, que va-t-il...
Il est garant de la cohésion nationale.
Alors voilà, il va en tout cas... Il va se poser en garant de la cohésion nationale. C'est-à-dire, j'ai bien compris que certains s'opposent à ce gouvernement, mais je vous rassure, je vais être le garant de la cohésion nationale. Au-delà de ça, si on réfléchit en termes de philosophie politique, puisque c'est un peu l'angle qu'on a choisi aujourd'hui pour terminer cette année 2024, il ne va pas s'inscrire en rupture avec la ligne que nous venons d'analyser. Au contraire, il va dire... je ne sais pas s'il va le citer, mais enfin, il va dire avec les mots d'un Régis Debray, quelle est l'essence du politique ? C'est de transformer un tas, informe, de consommateurs, d'individus privés, avec leurs espérances, leurs angoisses, leurs rejets, en un tout, en un collectif animé par, on pourrait dire, une sorte d'âme, l'âme de la France. Il va se poser en garant de cette âme de la France. Je ne sais pas quel mot il va employer, mais en tout cas, on va vers ça.
Et c'est un rôle que lui reconnaissent aujourd'hui toujours une majorité de Français ?
À l'évidence, non. Mais comme vous le savez, en politique, nous sommes dans des cycles qui s'accélèrent et nous sommes aussi dans un univers un petit peu liquide, un peu plastique, où on peut reconstituer progressivement une crédibilité à condition d'avoir une action publique qui produit des résultats. Car quel est le reproche récurrent des Français ces dernières années ? Ça va au-delà d'Emmanuel Macron, ça va au-delà de ses gouvernements successifs. C'est, au fond, la conviction, à tort ou à raison, mais là, nous parlons des représentations, elles sont fondamentales en politique, que l'action publique ne peut plus rien pour eux. Si ce gouvernement, en dépit de la fragilité de son socle à l'Assemblée nationale, législatif, si ce gouvernement montre qu'il produit des résultats dans les différents champs d'attente des Français... pouvoir d'achat, sécurité, décentralisation, reconstruction de Mayotte, etc., etc., il aura gagné une partie de cette manche très difficile qui s'engage et qui, plus que jamais, en fait, fait s'affronter un bloc central élargi avec les populismes xénophobes, notamment, vous voyez. Et à l'arrivée, évidemment, s'il rate, les populismes xénophobes auront le vent en poupe. Faut pas se leurrer, cher Steve, en cette fin d'année 2024.
Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous en direct et en studio. Bon après-midi. Et à l'année prochaine. Ce sera vendredi.
Radio J. Steve Nadjar. Radio J.
Radio J. Radio J.
On va marquer une première pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre grand journal. À suivre, le décryptage de l'actualité israélienne. Juste après, le président du CRIF, Yonatan Arfi. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. A tout de suite.
Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen.
Du lundi au jeudi, on se retrouve avec mes invités prestigieux pour une heure d'émotion, de fond et en forme sur Radio J. À tout très vite. Radio J.
Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
Bonjour à tous, ici Annabelle Nakache, alias Annabelle Show. Vous avez l'habitude de m'entendre sur Radio J. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve pour de vrai pour terminer 2024 en beauté à la scène parisienne à 19h le 31 décembre avec mon spectacle Amour, Action ou Vérité. Une comédie palpitante que j'ai écrite et que je joue avec Rudy Mayout pour ne jamais oublier que l'amour est un jeu dangereux. Seriez-vous toujours en couple si vous étiez obligé de dire toujours la vérité? Et vous, êtes-vous prêt à jouer? Alors à vos rires, prêt, feu, réservé, 19h le 31 décembre, la scène parisienne.
Radio J.
Le grand journal, Steve Nadjar.
Radio J.
La deuxième partie du grand journal, merci d'avoir choisi Radio J pour démarrer cet après-midi. Nous sommes ensemble en direct et vous nous suivez sur le DAB, mais aussi en vidéo sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Tout de suite, cap sur le Proche-Orient. L'actualité israélienne dominée bien sûr par ces nouvelles attaques menées la nuit dernière par les Houthis du Yémen, une menace militaire qui intervient alors que la coalition Netanyahou connaît de nouvelles perturbations, des tensions sur lesquelles reviennent aujourd'hui les médias locaux. La revue de presse israélienne signée Olivier Granilic en partenariat avec Studio Qualita.
Le Premier ministre se repose actuellement à l'hôpital après une opération de la prostate qui a eu lieu dimanche. Des tensions éclatent au sein de sa coalition. Et Yuval Karni, en première page du Yedioth Ahronot, nous explique que le principal conflit oppose le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Ben-Gvir affirme depuis des semaines qu'une augmentation significative du budget de son ministère lui avait été promise, mais celle-ci ne figure pas dans le projet de budget actuel. Et a révélé à la presse aussi un document signé par la main du secrétaire du gouvernement qui le prouve. En réaction, il menace que les membres de son parti s'opposent à la loi sur les bénéfices bloqués, un texte qui est porté par Bezalel Smotrich et qui doit être présenté aujourd'hui à la Knesset. Le Israël Hayom ajoute aussi que Ben-Gvir bloque également un projet de loi sur l'assurance nationale, une autre initiative soutenue par le ministre des Finances.
Et les partis orthodoxes menacent eux aussi de ne pas voter en faveur du budget présenté par Bezalel Smotrich.
Oui, c'est Daphna Liel de la chaîne 12 qui expliquait hier que les partis ultra-orthodoxes intensifient leur pression sur le gouvernement israélien, exigeant la présentation immédiate de la loi sur la conscription avant l'approbation du budget. Ils menacent donc de ne pas soutenir le budget si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Et pour couronner le tout, le président de la commission des affaires étrangères et de la défense, Yuli Edelstein, a déclaré qui n'accepterait qu'une loi de construction originale, rejetant donc toute forme d'exemption généralisée, une situation donc plutôt complexe et compliquée pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a annoncé son intention, lui, de revenir au Likoud, sa maison politique d'origine.
Oui, il a reconnu avoir commis une erreur en démissionnant du gouvernement en mars dernier, en pleine guerre, en raison des divergences sur la conduite du conflit et du processus décisionnel de Benjamin Netanyahou. Et c'est Yehuda Schlesinger qui nous l'apprend ce matin dans le Israël Hayom. Gideon Saar a exprimé aussi ce regret dans un message publié hier, tout en critiquant sévèrement ses détracteurs, les accusant de mener une campagne de diffamation contre lui et sa famille. Saar a réaffirmé son engagement envers la droite politique et son soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu'il considère comme menant une campagne historique qui transforme actuellement la région du Moyen-Orient.
Le Premier ministre a subi une opération de la prostate ce dimanche dernier, mais une question intrigue la presse israélienne. Où se trouve Sarah Netanyahou, son épouse?
Oui, une bonne question, Ilana. La réponse se trouve dans la majorité des quotidiens ce matin. Sarah Netanyahou est actuellement à Miami avec son fils. Et si elle n'est pas rentrée auprès de son mari, c'est parce qu'elle a contracté le Covid, le Corona. Et elle ne peut pas donc voyager. Des proches de Sarah Netanyahou assurent qu'elle rejoindra son époux dès qu'elle sera rétablie.
Et puis, pour le dernier jour de 2024, on va en parler évidemment, mais il semble d'abord que les négociations pour la libération des otages sont toujours dans l'impasse.
Oui, c'est Yoran Abraham de la chaîne 12 qui a révélé hier que lors d'une réunion consacrée à la question des otages, le Premier ministre a affirmé qu'en cas d'accord, Israël reprendra les combats immédiatement après, tout en soulignant que cette position ne vise pas à entraver un accord, mais plutôt à l'encourager. Cependant, des acteurs impliqués dans les négociations expriment des inquiétudes. En effet, le Hamas exige toujours des garanties internationales, retardant les discussions, et de leur côté, les responsables de l'administration Biden évoquent des avancées, mais signalent des désaccords sur le nombre et l'identité des otages concernés par cet accord.
C'était Olivier Granic au micro ce matin d'Ilana Ferradian et on a appris il y a quelques minutes que Benjamin Netanyahu s'était rendu et se trouve toujours à la Knesset et se contrôle à vie de ses médecins après son opération chirurgicale du week-end. Le Premier ministre israélien qui cherche à éviter la mise en minorité de son gouvernement cet après-midi lors d'un vote sur la loi des bénéfices non répartis. On en reparlera dans quelques instants en direct avec Etanit Belaïch pour le rappel des titres.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
Et c'est à présent le président du CRIF qui nous rejoint. Bonjour Jonathan Arfi.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. L'année civile s'achève donc dans les prochaines heures. François Bayrou souhaitait ce matin une année de réconciliation pour 2025 pour les Français. Les fractures françaises, la polarisation accrue de la société, c'est l'un des phénomènes majeurs que vous retenez en France, Jonathan Arfi, de ces 12 derniers mois.
Oui, je retiens une société fracturée, une société où les divisions sont plus ancrées que jamais et où, évidemment, l'antisémitisme a été, une fois de plus, un marqueur de ces menaces pour notre cohésion nationale. Je souhaite pour 2025 que les Juifs retrouvent dans la société française la sérénité à laquelle ils ont droit, comme tous leurs concitoyens, que nous retrouvions la capacité à espérer ensemble, avec l'ensemble des Français, une société meilleure et qu'enfin, effectivement, la France trouve dans un monde apaisé et avec un Moyen-Orient où les otages soient libérés, où Israël vive en paix, trouve une place grande parmi les nations. Je crois que c'est, on le sait, le souhait le plus profond des Juifs en France depuis tant et tant d'années. Espérons que 2025 amène enfin ces perspectives réjouissantes.
Mais il y a, selon vous, Jonathan Arfi, un lien à faire entre cette polarisation, cette extrémisation du débat public et la montée de l'antisémitisme ?
Oui, parce que le débat public s'est hystérisé, s'est polarisé autour de la question de Gaza, autour de la question de la stigmatisation des Juifs. Je rappelle la responsabilité immense que porte la France insoumise dans cette séquence depuis quelques mois, en particulier lors des campagnes électorales au moment des élections européennes puis des élections législatives. Mmh. Il y a des acteurs qui ont intérêt à une société clivée, une société polarisée, parce que ça rejoint leur stratégie électorale, clientéliste, communautariste, on le sait, mais qui joue en plus sur une forme de contestation permanente du cadre institutionnel et des autorités publiques. Et donc, on a là un point de jointure entre les franges antisémites de la société et une stratégie politique, on va dire, anti-institutionnelle, anti-républicaine. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau à l'échelle de l'histoire, mais qu'on voit se déployer sous nos yeux, alors que nous pensions, au fond, ces temps-là révolus depuis longtemps.
Alors, seront publiés prochainement les chiffres de l'antisémitisme en France en 2024. On sera, selon vous, sur un trend plus élevé encore que celui mesuré en 2023, dont, rappelons-le évidemment, les trois derniers mois avaient été particulièrement terribles sur ce plan.
Il faut prendre du recul sur ces chiffres pour avoir une idée pour saisir ce qui s'est passé, le changement d'échelle de l'antisémitisme. Je rappelle souvent que dans les années 90, il y avait quelques dizaines d'actes antisémites par an enregistrés par le ministère de l'Intérieur et quelques dizaines de trop, mais quelques dizaines seulement. Les années 2000, avec la seconde intifada jusqu'à 2022, nous avons eu quelques centaines d'actes antisémites chaque année, et même les années calmes, nous ne revenions pas aux dizaines des années 90. Et pour la première fois en 2023, nous avons passé le cap du millier, 1676 en 2023. Nous pouvons dire, malheureusement d'ores et déjà, que nous serons aussi en milliers en 2024 et je le crains que nous ne soyons pas capables, même en 2025, de revenir aux centaines, entre guillemets, que nous avions entre 2000 et 2022, parce que l'antisémitisme, c'est toujours un phénomène de libération, d'activation. Et une fois que le mauvais génie est sorti de la boîte, c'est très difficile malheureusement, de l'y faire revenir. Et on a un phénomène aujourd'hui d'antisémitisme décomplexé, libéré notamment chez les plus jeunes générations, avec aucune capacité entre nos mains à date de juguler parfaitement le phénomène.
Merci beaucoup, Yolten Arfi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous présidez le CRIF. Bonne fête et bon après-midi.
Merci.
Radio J, le grand journal, 14h-15h, Steve Nadjar.
Merci d'être avec nous dans le Grand Journal. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Radio J. Il est 14h30, c'est l'heure du rappel des titres. Les titres signés Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous. Le Premier ministre israélien est à la Knesset pour voter le projet de loi sur la taxation des bénéfices non distribués. Moins de 48 heures après avoir subi une opération de la prostate, Benjamin Netanyahou répond ainsi contre avis médical à l'appel lancé par le ministre des Finances ce matin. Bezalel Smotrich qui a appelé le chef du gouvernement à prendre ses responsabilités face à la menace d'un blocage du texte par les partis Otzma Yehudit et Agudat Israël. Tsahal annonce le départ de la brigade Nahal de Rafah, déployée fin mai dans la localité du sud de la bande de Gaza. La brigade a détruit ces 7 derniers mois de nombreuses infrastructures utilisées par le Hamas et éliminé plusieurs terroristes selon l'armée. Mayotte n'a pas vocation à devenir une île bidonville après le passage du cyclone Chido, assure le Premier ministre français. L'État interviendra donc pour ne pas laisser reconstruire ses habitats précaires, a promis François Bayrou en déplacement à la Réunion. Enfin, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde par rapport à l'ère pré-industrielle, selon l'Observatoire européen Copernicus.
Merci Etanit, rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau journal.
Radio J.
Voici le programme de la prochaine demi-heure. Juste après la pause, je recevrai Emmanuel Dupuis pour un bilan et perspectives géopolitiques des mois à venir. Vous écouterez également Chaim Nissenbaum pour Judaïsme dans la cité. Le Grand Journal revient dans un instant. Avec vous, je l'espère, à tout de suite.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Radio J.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J.
Radio J.
Allô Alia ?
Allô Alia ?
Le centre d'appel gratuit pour obtenir toutes les réponses concernant la préparation de votre Alia et votre intégration en Israël. Allô Alia ? Besoin d'infos sur vos droits, l'emploi, le système de santé, les retraites, l'éducation, l'université, l'armée, la reconnaissance des diplômes, les cours d'hébreu ou encore les réseaux d'entraide ?
Allô Alia ?
Allô Alia ? 0805 031 550, un numéro vert à votre écoute. Allô Alia ? Service en français, 100% gratuit. 0805 031 550.
Appelez-nous.
La journée est belle. Vous écoutez Radio J.
Vous écoutez
Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Provocativit, aggressivit, take it or leave it. Tomi shelo matim la, tagidi lo.
Radio J.
Ma fispas ta.
Halti shel ki ani kvar lo yodat eich osim ahava yom. Halti shel im ani mitgeget al tava li gam bachalom.
Et mi ta choshev shta mafchid, ve'im ata lo mitkaven la'arim li tori ta tmonot mafit, ve'im yesh lo ma la'agid, kopara tagid. שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי מאמי כי אני חתולת רחוב
רדיו ג'י
רדיו ג'י
לגרון ג'ורנל סטיב נג'ר
Radio J.
La troisième et dernière partie du Grand Journal. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Vous pouvez nous suivre sur notre site radioj.fr, sur notre appli également, ainsi qu'en vidéo, notamment sur notre chaîne YouTube.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Et avant de retrouver notre invité, le géopolitologue Emmanuel Dupuis, on se tourne vers Chaïm Nissembaum pour Judaïsme dans la cité. Bonjour Chaïm.
Bonjour, bonjour.
Et merci de nous rejoindre en direct. Beaucoup ont remarqué ici et là que la fête de Noël la semaine dernière tombait le même jour que le début de Hanouka. On se souhaite également parfois la bonne année en cette dernière journée, l'année civile. Est-ce qu'il y a malgré tout, selon vous, un risque d'une forme de soft assimilation à discuter ainsi et à mêler parfois, sans y prendre garde parfois, deux conceptions de l'histoire et du présent?
Alors ça, c'est tout à fait clair, et c'est une tentation constante. Il faut d'abord préciser en réalité que le peuple juif s'est toujours totalement intégré à la société, à la civilisation dans laquelle il vivait, dans la mesure où celle-ci l'acceptait. Par exemple, il n'a jamais dérangé personne de souhaiter une bonne année lorsqu'arrive la fin de l'année civile, même si c'est une référence chrétienne à l'origine. Tout simplement, d'ailleurs, comme on le dit en forme de plaisanterie dans le monde ashkénaze, quand deux ashkénazim se rencontrent, quelle que soit la période de l'année, bien ils se souhaitent, en yiddish, à gout yor, une bonne année. Donc ça ne dérange absolument pas.
Et je me souviens de cet enseignement grand rabbin Emmanuel Shushna, Zichrono Livracha, rapporté par le grand rabbin de France, Chaim Korsak, qui était son élève et qui lui disait qu'il n'y avait jamais, il n'était jamais trop tard pour souhaiter la bonne année à quelqu'un.
Absolument. Alors, cela, bien sûr, ne pose pas de problème de principe. Le problème est ailleurs, parce qu'il y en a effectivement un, c'est que dans la conscience, nous finissions par confondre les visions et les cultures. Si l'on peut dire, et d'une certaine façon, chaque juif, en réalité, est très fidèle à la nation au milieu de laquelle il vit, en France pour ce qui nous concerne, il y est très fidèle, il s'identifie à elle, il partage son destin et partage les défis qu'elle doit relever. Toutefois, pour être parfaitement fidèle, il faut en même temps qu'il soit fidèle à lui-même. D'une certaine manière, la fidélité est un concept unique, un concept intouchable. Si on est fidèle à soi, alors on peut l'être totalement. On est aussi fidèle à sa patrie même d'adoption. Mais si on perd la notion de la fidélité, autrement dit, si on perd la conception qui nous est propre, alors dans ce cas-là, il y a un vrai risque de dissolution et de dissolution finalement de tout ce que l'on est et donc de déjudaïsation.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cher Chaïm, notamment lorsqu'on s'engage dans des discussions avec les enfants, avec ces références qui reviennent parfois dans les discussions? Comment est-ce qu'on peut leur expliquer ces choses-là de manière la plus simple possible, les enfants et les adolescents notamment?
Eh bien, de manière très simple, il faut dire qu'il y a une année civile. Enfin, il n'est même pas nécessaire de faire référence à une autre religion, la religion majoritaire de ce pays, tout simplement parce que de plus en plus, et du fait des choses qu'on regrette ou non, tous ces concepts se détachent des références religieuses. On peut très bien expliquer qu'il s'agit d'une année civile, qui s'est donnée à tout le monde, mais que nous avons une spécificité et que notre année a déjà commencé depuis Rosh Hashanah dernier, depuis le mois de septembre.
Et pourquoi ne pas rappeler, Chaïm, pardon, je rebondis sur ce que vous nous avez dit, je m'excuse de vous interrompre, mettre de côté le rappel du référentiel religieux autour duquel s'organisent et s'articulent ces moments du calendrier, que ce soit le 25 décembre évidemment, mais aussi le 1er janvier, ce qui est moins su parfois.
Parce que la computation est malgré tout liée, elle a une substance. Prenons un exemple. Nous sortons bientôt de Hanouka, mais Hanouka nous parle de cette histoire, justement. Elle nous raconte l'idée que la plus grande partie, il faut dire, du peuple juif, a voulu suivre l'exemple de la culture grecque, qui était la culture dominante en cela. Les Grecs avaient aussi leur computation, les Romains, après eux, ont eu leur computation du temps. Et justement, une des choses que l'oppresseur, l'occupant a voulu interdire aux Juifs sur leur terre, ça a été la proclamation du Rosh Chodesh, la proclamation de chaque mois juif.
Qui est la première mitzvah de la Torah, le premier commandement.
Exactement, mais pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Quelle importance ça avait ? Ça semble pas quelque chose d'essentiel, comme le respect du Shabbat, ou le respect de l'alimentation cachère, même si cela aussi était interdit. Mais ils ont voulu interdire le Rosh Chodesh, mais parce que compter le temps n'est pas un acte anodin. Compter le temps, c'est quelque chose qui modèle la vie. La computation du temps en fonction de normes religieuses, même si aujourd'hui elles sont effacées, est une manière de voir le monde, de le contempler. Le voir à la manière juive, c'est le voir en fonction d'une norme qui appartient à une société, à une civilisation éternelle. Or, c'est cela qu'il faut concilier. Toute la difficulté de la vie du juif en exil, c'est cela. Et ce n'est pas une difficulté, c'est sans doute un enrichissement. Et pour la culture d'accueil, et pour la culture qui trouve accueil. C'est d'avoir en même temps la perception de ce que l'on est, et en même temps du lieu où on se trouve, et être capable de concilier les deux, sans oublier ni l'un ni l'autre.
Parlons très concrètement, cher Chaim, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Est-ce que célébrer ce soir le nouvel an et le réveillon autour de paillettes, dans une forme parfois même de spectacle, est-ce que ça pose problème ?
Bien, cela me semble aujourd'hui, ça me semble poser problème à un autre regard. Non pas sous celui de la référence chrétienne qui, encore une fois, qu'on le regrette ou non, a bien disparu de ces célébrations, mais plutôt sur sa connotation presque païenne. Aujourd'hui, les réjouissances du Nouvel An ont perdu tout lien avec le spirituel. Alors, s'enfoncer de cette façon-là, dans la matérialité, qui est bien souvent très grossière, est-ce véritablement une attitude juive ? Mais le problème se trouve ailleurs. Ce n'est plus seulement de computation du monde qu'il s'agit, mais cela représente aussi notre vision des choses. Qu'est-ce que c'est que le changement d'une année ? Est-ce simplement une occasion de bombance ou une occasion de réflexion ? Mais nous sommes partis sur un autre débat, évidemment.
Mais est-ce que c'est aussi une forme d'illustration de la société, du spectacle dans laquelle nous vivons malgré tout ?
Bien entendu, bien entendu. Mais la voulons-nous ?
Parce qu'on est quand même sur des dynamiques qui sont différentes, en tout cas, telles qu'elles se fêtent aujourd'hui, entre le nouvel an juif, Rosh Hashanah, et la manière dont on peut fêter le passage à une nouvelle année civile. D'un côté, on est dans le recueillement, qui peut s'accompagner de la joie, mais malgré tout dans un recueillement teinté de repentir, alors que de l'autre côté, si on exclut les célébrations religieuses qui ont lieu d'ailleurs pendant cette nuit du 31 décembre, on est clairement et uniquement que dans la fête.
Oui, en fait, on n'est plus dans le christianisme, en réalité, dans ce cas-là, on est davantage, comme on le disait à l'instant, dans le paganisme. Mais est-ce que c'est bien ça que nous voulons ? La question qui est posée ici, c'est quel est notre regard sur le temps ? Qu'est-ce que le temps ? Est-ce que c'est seulement un moyen commode de compter les jours, les mois, les années ? Ou est-ce que le temps a une importance en soi ? Est-ce qu'il apporte quelque chose et nous invite à quelque chose ? Mais je crois que c'est toute la place de l'homme dans le monde qui est ici à définir. Est-ce qu'il y a une notion d'adoration quelconque, d'un élément spirituel ? Est-ce que le temps n'est pas une expression bien de la création ? On va le dire en d'autres termes, est-ce que ce n'est pas une expression du souffle divin ? Mais si on ne le ressent plus, en quoi existons-nous ? Sommes-nous partie intégrante du temps ou alors sommes-nous dévorés par lui ? C'est une longue interrogation qu'il importe de relever, je crois.
Merci beaucoup, Chaim Nissebaum, d'avoir été avec nous. Judaïsme dans la cité, à réécouter sur radioj.fr. Bon après-midi, Hanouka Sameach.
Hanouka Sameach à tous.
Radio J, l'invité du grand journal.
Radio J, Steve Nadjar.
Emmanuel Dupuis, bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions internationales et militaires. Vous présidez l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Avant de revenir avec vous dans le détail sur l'année géopolitique 2024, un mot, un gros plan d'abord. Quel a été selon vous l'événement international le plus décisif par ses conséquences au Moyen-Orient lors de l'année écoulée ?
Bah, évidemment, c'est le 7 octobre, l'attaque innommable du 7 octobre qui a provoqué un déferlement de violence par domino et qui a provoqué, évidemment... Attendez, je crois que ma caméra s'est éteinte, je suis désolé, je la...
Il faudrait pas qu'on perde. Alors, on vous entend toujours.
Voilà, donc j'ai un problème sur ma caméra, mais c'est pas grave, je continue.
Puisque nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent simplement à la radio, peuvent vous suivre également sur notre chaîne YouTube.
Donc, je disais que le 7 octobre, qui a déclenché, évidemment, une sorte de bouleversement stratégique, avec certitude, qui va façonner un nouveau Moyen-Orient. Il faudra attendre l'arrivée du président Trump, l'investiture du président Trump le 20 janvier, pour, dans les mois qui vont suivre, s'en rendre compte. Une nouvelle donne stratégique dans laquelle les acteurs traditionnels de médiation, de facilitation, ceux qui parrainaient un certain nombre d'organisations terroristes s'en sont trouvés affaiblis. En l'occurrence, l'Iran, qui a perdu une partie de ses CI, de ses proxys, et notamment ceux sur lesquels elle avait investi depuis une quinzaine d'années, notamment le Hezbollah.
Et c'est la dynamique la majeure et peut-être la plus inattendue, cet affaiblissement stratégique de l'Iran à travers ses proxys, même si on parlera donc du cas du Yémen juste après, qu'il s'agisse de Bachar el-Assad et davantage encore du Hezbollah, d'Hassan Nasrallah au Liban. Alors,
ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle se sont déroulés les événements que vous décrivez. Premièrement, un affaiblissement du Hamas, après l'attaque du 7 octobre, qui évidemment, et il faut s'en réjouir, sort totalement détruit au sens propre comme au sens figuré dans sa capacité de nuisance vis-à-vis de l'État d'Israël et vis-à-vis de l'ensemble de la région et le pays voisin qu'est l'Égypte. Ensuite, un démantèlement par le haut avec l'élimination du leadership du Hezbollah et par le bas avec les combats qui ont perduré et qui perdurent toujours malgré le frêle et le fragile cessez-le-feu au Liban, qui ont considérablement affaibli le Hezbollah. Mais vous évoquez les Houthis qui ne se sortent pas non plus renforcés, bien au contraire, car désormais il y a une coalition visant à en réduire sa capacité de nuisance. Une coalition internationale depuis maintenant un an, depuis que les attaques des Houthis ont ciblé la libre circulation dans le détroit de Mabel Mendeb et le long des côtes donc d'Arabie Saoudite, du Soudan et de l'Égypte et de l'Érythrée, et puis de plus récemment avec des frappes directement confirmées par l'État d'Israël contre les capacités de tir de missiles balistiques de la part des Houthis. Donc Téhéran, et notamment le pouvoir religieux, le régime des Mollahs, sort affaibli. Il sort d'autant plus affaibli que le président Pachekian a finalement un très fragile pouvoir entre les mains. Il a hérité d'un pouvoir politique avec l'élection anticipée eu égard à la mort accidentelle du président Raisi, mais ça ne veut pas dire qu'il tient les rênes du pouvoir. On voit bien que ce sont les gardiens de la révolution qui sont encore en capacité de mettre en péril l'ensemble de la région, l'ensemble du voisinage.
Alors la nuit dernière, un nouveau missile balistique a été lancé par les Houthis du Yémen contre le territoire israélien. Il a été intercepté par les forces israéliennes avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien du pays. La mini-site qui promet, je les cite, des surprises à l'État hébreu. Le Yémen et les Houthis, c'est aujourd'hui la force principale de l'axe pro-Iran active contre l'État d'Israël.
C'est le seul qui lui reste, puisque l'affaiblissement des gardiens de la révolution qui ont dû quitter, même s'il n'en reste quelques-uns encore, la Syrie, suite à la chute du régime de Bachar al-Assad, puis, comme je le disais précédemment, l'éradication du leadership et donc de la conduite opérationnelle du Hezbollah et l'affaiblissement du Hamas et du djihad islamique. Il ne reste plus, comme Saïd, comme proxy pour l'Iran, les Houthis. Alors évidemment, il reste encore une capacité de nuisance de l'Iran par elle-même. D'ailleurs, c'est un petit peu la révélation, la malheureuse révélation de cette fin d'année, où désormais, depuis avril dernier, il y a une guerre directe entre Israël et l'Iran par voie de missiles balistiques, ce qui évidemment est un changement stratégique majeur, puisque jusqu'à présent, l'Iran se contentait, entre guillemets, d'utiliser ses proxys. Désormais, la confrontation est plus directe. Peut-être que cela va changer à l'occasion de l'année qui vient, car l'Iran est affaibli domestiquement parlant aussi. Une crise économique résurgente, des contestations de plus en plus fortes de la part des différentes parts de la société, les étudiants il y a quelques mois, depuis quelques jours le bazar, les commerçants, donc on voit bien que le régime iranien est en train d'essayer de survivre.
Au point que certains évoquent notamment aux États-Unis et en Israël, la possibilité, voire l'opportunité pour l'État d'Israël, soutenu en l'occurrence par Donald Trump, de frapper dans les, notamment dans les prochaines semaines de l'année 2025 des sites nucléaires iraniens. Est-ce que ça vous apparaît comme une hypothèse crédible aujourd'hui ?
Alors, du point de vue des États-Unis, non, car les États-Unis veulent sans doute avoir une capacité de se garder une capacité de négociation avec les autorités iraniennes. Une capacité de négociation qui sera un peu différente de celle qui avait abouti aux accords du 14 juillet 2015, puisqu'il s'agissait là d'une coopération internationale. On se souvient que Donald Trump avait, dans les premiers jours qui avaient succédé, contribué donc à marquer sa différence avec Barack Obama en déchirant le 10 accord nucléaire du JCPOA du 14 juillet 2015. Sans doute que Donald Trump veut une négociation directe avec les autorités iraniennes. Sans doute faudra-t-il voir avec beaucoup d'attention la manière dont la Russie, la Turquie et l'Iran peuvent encore dialoguer. On sait que la relation est de plus en plus tendue depuis la chute de Bachar el-Assad entre la Russie et la Turquie, mais on sent aussi que Recep Tayyip Erdogan veut en profiter pour affaiblir le régime iranien. Donc peut-être qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est tricéphale de la part de la Russie, de la part des États-Unis et de la part de la Turquie, paradoxalement, qui consisterait peut-être à lâcher le régime de l'Iran, car la Russie a obtenu ce qu'elle veut, c'est-à-dire des drones en nombre important. La capacité de l'Iran désormais est moindre. La Russie se tourne désormais vers d'autres partenaires, en l'occurrence la Corée du Nord. On voit bien que la Turquie veut se repositionner dans son ancien empire ottoman. La chute de Bachar al-Assad en est une des conséquences directes. La deuxième étant désormais sa lutte et ses opérations menées contre les Kurdes, et la nouvelle administration américaine qui veut mettre une pression maximale, maximum pressure en Iran, comme il l'avait fait en 2017-2018, et sans doute à regarder avec beaucoup d'attention, car c'est là que les premiers éléments de la politique étrangère et de la politique moyen-orientale du président Trump se seront réalisés.
Et ajoutons qu'un responsable américain vient de confirmer à l'agence de presse Reuters que les États-Unis avaient mené de nouvelles frappes contre des cibles des Houthis au Yémen. Dans une tribune publiée par Le Figaro, l'ancien ministre Pierre Lelouch, expert en matière géopolitique, estime que 2024 a été l'année, je le cite, de l'engrenage du chaos mondial. L'ordre international post-1945 est désormais ouvertement contesté par les pays du Sud global. Le nombre de victimes civiles des conflits militaires a augmenté et la guerre s'étend. Et vous évoquez, fait extrêmement intéressant, cette arrivée massive de soldats nord-coréens du côté russe face aux Ukrainiens. Est-ce que vous partagez, Emmanuel Dupuis, ce tableau assez sombre de la réalité géostratégique ?
Partiellement. Premièrement, parce que l'existence d'un Sud global ou d'un Sud qui serait coalisé contre les Occidentaux reste à prouver. Le BRICS, l'organisation qui regroupe les dites économies émergentes, est un rassemblement assez hétéroclite de puissances qui ont chacun leur agenda et parfois des agendas divergents entre elles. Deuxièmement, le bloc occidental est lui-même divisé. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est pas tellement qu'il y a une opposition entre les pays du Sud et les pays du Nord, c'est qu'il y a une incohérence au sens propre du terme sur un certain nombre de sujets majeurs. La relation transatlantique est remise en cause. Elle est remise en cause par le plus puissant des deux, c'est-à-dire les États-Unis qui désormais veulent totalement pivoter. Cela a été défini il y a 10 ans. Désormais, Donald Trump veut le réaliser pleinement pour contenir la Chine. Donc l'Europe et les contingences de la géopolitique européenne sont un fardeau pour le président Donald Trump.
Et il faut s'attendre, pour terminer, Emmanuel Dupuis, à des décisions encore plus radicales et encore plus unilatérales de Donald Trump que lors du début de son premier mandat en 2017.
Oui, il l'a déjà dit, d'ailleurs, dans un tweet il y a quelques jours, en mettant en avant que désormais il fallait assurer la protection du territoire américain. Alors, sans que ce soit anecdotique, regardons avec beaucoup d'intérêt les menaces qui ont été formulées contre l'ingérence chinoise dans l'Amérique latine, notamment autour du canal de Panama. Regardons avec beaucoup d'intérêt l'insistance avec laquelle le président Donald Trump veut récupérer le Groenland, ou en tout cas le militariser, car désormais il veut contenir la pression et la menace chinoise, comme je le disais. La menace russe est une moindre menace. Néanmoins, il faut s'attendre à ce que les Européens soient sous pression et sous tension, car désormais, on le sait, Volodymyr Zelensky l'a compris, l'Ukraine sera un peu la victime expiatoire d'une sorte de Yalta 2, un partage du monde dans lequel le Moyen-Orient est débarrassé de Bachar al-Assad parce que les Russes l'ont bien voulu, et désormais, la balle est dans le camp occidental pour régler, hélas, la situation plus que rapidement prévue en Ukraine.
Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous présidez l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bon après-midi et bonne année.
Merci à vous, bonne année à vous.
Radio J, 14h, 15h, Le Grand Journal, Steve Nadjar.
C'est la fin du Grand Journal, merci de l'avoir suivi. Merci à Alan et à Ethan à la réalisation cet après-midi.
Radio J.
Vous pouvez retrouver cette émission sur radioj.fr, sur Spotify et Deezer et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À suivre, un nouveau journal présenté par Etanit Belaïs. On sépare en musique avec la dernière chanson d'Omer Adam sous la mode Vene Hachot. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, portez-vous bien.
Le Grand Journal. Le Grand Journal. Steve
Nadjar. לא סופר פה בשקט דקות אני מתעורר, לוקח בידיים מאוחר, שוב יורד לסיבוב עם הלב משחרר קצת את מה שכואב זה רק אני, אני והשמיים
écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Christophe Barbier. Tous les jours, je suis Jacques Offenbach au Théâtre de Poche Montparnasse pour Offenbach et les Trois Empereurs avec Pauline Courtin et Vadim Cher. Nous sommes le 7 juin 1867. Trois empereurs viennent dîner au Café Anglais et Offenbach doit leur improviser un spectacle. Mais qui sont-ils, ces empereurs? Venez le découvrir au Théâtre de Poche tous les jours à 19h, le dimanche à 15h. Offenbach et les Trois Empereurs.
Ce soir, on va allumer les bougies de Hanouka.
Pourquoi on fait ça, maman?
C'est une tradition pour apporter la lumière, se souvenir du miracle de Hanouka, mais c'est aussi un moment pour partager avec ceux qui en ont besoin.